n'est pas terminé pour Nevers. Mbadio peut-être pour crucifier le Biarro. Le voici l'essai. Oh, qui vaut cher cet essai. Victoire de Nevers qui réussit le gros coup de cette 24e journée.
Bienvenue sur Radio Vali, votre émission rugby locale diffusée sur BAC FM.
Nous sommes Enzo et Candice, élèves de seconde au lycée Raoul Folreau, et on participe à la section rugby.
Donc pour ma part, Enzo, je joue à Lucerne depuis 8 ans maintenant. Je suis actuellement U16 à la Mercerie et j'évolue au poste de 2e et 3e ligne.
En ce qui me concerne, je joue à Lucerne depuis la rentrée de septembre en cadette et j'évolue également au poste de 2e et 3e ligne.
Donc à travers ces émissions, nous allons vous faire découvrir le rugby à Lucerne.
Et on commence par une interview, et pas des moindres, de Monsieur Rafali, le speaker de Lucerne.
Et notre parrain de l'émission.
Bien sûr.
Donc en fin d'émission, nous ferons le point sur l'actualité rugby de la semaine, après avoir écouté Star Walking de Lil Nas X. Mais avant ça, nous retrouvons Monsieur Rafali.
Alors bonjour Monsieur Rafali, comment allez-vous ?
Bonjour à vous tous et à vous toutes, amis auditeurs de Vague FM, et puis en particulier aux spécialistes de rugby. Bonjour Candice et Enzo. Pour répondre à votre question, tout va bien. Voilà.
Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter assez brièvement, vous et votre cursus professionnel ?
Ouh, ça va être long. Vous avez 2 heures devant vous ? Non, on va faire plus court. Et déjà, pour faire plus court, appelez Jean-François Rafali, parce que même mes élèves que j'ai eus pendant 40 ans durant, c'est une manière de vous dire que j'étais enseignant de PS pendant 40 ans, ne m'ont jamais vraiment vouvoyé et, sans me manquer de respect, m'appelaient plutôt par mon prénom. Donc, je vous propose de faire la même chose. Donc, 40 ans d'éducation nationale, professeur de PS, avec les deux spécialités qui sont, bien évidemment, le rugby et l'athlétisme. Mais vous savez, quand on est enseignant, on touche à toutes les disciplines, qu'elles soient des sports courts ou sports individuels. Si je suis devenu enseignant, c'est qu'avant, j'avais déjà joué au rugby à Saint-Gilles-des-Vignes. C'est aussi au sein de l'ESL athlétisme que j'ai connu mes plus beaux moments, c'est-à-dire passer du niveau régional au niveau international. J'ai été capitaine pendant 3 ans de l'équipe de France de décathlon. Et puis, j'ai joué en National 1. À l'époque, ça s'appelait Groupe A. Ça, c'est vraiment pour les très, très, très anciens. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de jouer à l'âge de 19 ans en première division au poste de 3 carrels à une époque et puis ensuite au poste de 3e ligne où j'ai eu la chance d'affronter les meilleures 3e lignes de France que je voyais à la télévision lors du tournoi des 5 nations parce que c'était les 5 nations. Et puis ensuite, en 1987, j'ai créé un spectacle sur les Lumières. Pour le mettre en lumière, il fallait le présenter. Pour le présenter, j'ai commencé à travailler sur la promotion, à travailler sur les chaînes locales de télévision. Il n'y en avait pas beaucoup. Les radios locales, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Et c'est comme ça que le métier, on va dire, de speaker, annonceur, m'est venu. En 1992, la Fédération internationale a fait appel à mes services pour animer mes premiers championnats du monde juniors à Séoul. Et ensuite, j'ai fait tous les championnats du monde et tous les Jeux olympiques jusqu'en 2016 à Rio de Janeiro, à l'époque où j'ai croisé en même temps le rugby, l'athlétisme international et le rugby local, puisqu'après avoir animé 2 finales de top 14, j'ai vraiment posé mes valises de speaker de rugby à Lucerne, à l'invitation de Régis Dumange, son président, qui est quelqu'un qui fédère énormément et qui a su trouver les mots pour me séduire et m'emmener au sein d'un effectif que je ne regrette absolument pas maintenant. Voilà, vous savez tout.
Donc, vous nous avez parlé de l'ESL Saint-Léger, puis de Lucerne. Donc, en fait, l'élément déclencheur, ça a été du coup l'appel de Régis Dumange, c'est bien ça ?
Complètement. En tant que speaker de Lucerne, c'est quand Régis a voulu lancer ce club, il a voulu le moderniser et le professionnaliser. Et aucun des points ne lui a échappé. Bien évidemment, l'équipe de rugby, bien évidemment, le staff. Mais il y a tant de choses, et vous en savez quelque chose, vous les amis journalistes et jeunes rugbymen, vous savez très bien, et vous-même, pardon, vous savez très bien qu'il y a pas que le terrain, il n'y a pas que le staff, il n'y a pas que les joueurs, il y a les à côté, il y a le confort, il y a l'accueil en particulier pour l'équipe première lorsqu'elle reçoit des grandes équipes, ça se fait dans l'antre du Bré Fleury. Et là, il y a les endroits de convivialité, buffets, buvettes. Et puis, pour un petit peu arrondir tout ça, eh bien, il faut des speakers. Et il m'a appelé par rapport, sans doute, à mon vécu professionnalisme, j'en sais rien, mais à mon vécu. Vous savez qu'en général, nul n'est prophète en son pays. Et il est vrai que la première personne qui m'a vraiment fait confiance en tant que speaker, c'est Régis Dumange, et je le remercie, alors que j'étais sollicité à travers le monde pour mes commentaires, que ce soit d'athlétisme, de rugby à 15 ou de rugby à 7. C'était un retour en Nivernais que j'ai apprécié et qui est du seul fait de Régis Dumange, en effet.
Il est vrai que Régis Dumange a bel et bien su professionnaliser son club, puisqu'ils sont aujourd'hui eh bien, en pro des deux, et c'est tout à fait honorable. Pour continuer dans cette interview, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez d'autres fonctions ou bien d'autres rôles au sein du club ?
J'ai presque envie de dire que ma première fonction, mais ça, faut essayer des fois, ça me porte des problèmes, quelques soucis, quelques moments d'attention supplémentaires, parce que je suis supporter. Je suis un supporter du rugby nivernais, du rugby bourguignon et en particulier du rugby de Nevers. Alors, bien évidemment, ma fonction, c'est d'être speaker, animateur, bougeur de foule, en anglais cheerleaders. Mais c'est avant tout parce que je ne ferai pas ça. J'ai certains collègues qui le font pour deux clubs. J'ai un ami qui le fait pour le Castres Olympique et pour Béziers. Il y met de la passion, il y met de la voix, je l'ai écouté, je me suis même allé sur le terrain et on se connaît bien, tous les animateurs, tous les speakers d'équipes professionnelles, des 30 équipes professionnelles. Je crois que je dois y mettre plus d'âme, parce que moi je suis avant tout Usonny, je suis avant tout Nivernais, et je ne suis pas là, je l'ai fait une fois, et je vais être très honnête avec vous, j'ai fait une petite infidélité, une fois, pour le Loup. Pour le président, qui est toujours le même président actuel, et apparemment ils avaient apprécié ce que j'avais fait, ils m'ont demandé de revenir, j'ai dit non, c'est un remplacement que je fais, moi je suis speaker de Lusson, point barre.
Ah bah ça c'est très supporter de votre part. Et du coup, est-ce que vous pourriez un petit peu développer votre relation au public, puisqu'on se doute que ça doit être quelque chose d'assez, comment dirais-je, émotionnel?
Oui, c'est très bien. Vous avez vraiment trouvé le mot que j'ai employé. J'ai cette chance, je dis bien cette chance, hein, d'être un speaker qui a pratiqué le rugby à tous les niveaux. J'ai commencé en minime, en scolaire, grâce à mon professeur de PS, M. Bernard Roux, et qui m'a emmené ensuite dans un club, qui était l'ESL Rugby. Et puis ensuite, j'ai connu les sélections d'Auvergne, puisque nous jouions à l'époque, non pas en Bourgogne, mais en Auvergne. C'était le comité d'Auvergne. D'ailleurs, mon capitaine, ça va peut-être vous dire quelque chose, c'était Jean-Pierre Gédrasiac, qui a un fils qui s'appelle Paul, oui, qui joue à l'heure actuelle à l'ASM. Et ensuite, j'ai connu le groupe B, qui était un peu l'équivalent de la Pro D2, et puis ensuite le groupe A, ce qui était peut-être un peu le top 14, en sachant qu'à l'époque, et ça va remettre les pendules à l'heure, vous allez comprendre, nous nous entraînions trois fois par semaine, ce qui est complètement ridicule par rapport à ce que l'on fait maintenant dès la Fédérale 1, et Pro D2 et top 14. Donc, c'est vrai que le rôle que j'ai de speaker est un rôle qui peut être embrassé par quelqu'un qui n'a jamais joué au rugby, parce qu'il a une bonne gouaille, une bonne voix. Moi, je pense que le travail de speaker, le métier de speaker, c'est avant tout partager une émotion. Vous l'avez dit, Candice, vous avez parlé d'émotion. Oui, c'est émotionnel. C'est pouvoir, peut-être, à un moment donné, prononcer des mots que les joueurs entendent quand ils rentrent au vestiaire. Quand je dis qu'il y a une communion, qu'ils ont fait le plein d'énergie en passant devant la tribune Nièvre, je m'imagine avec les crampons aux pieds et être passé devant la tribune, et j'essaye, sans avoir de trémolo dans la voix, c'est-à-dire qu'il faut être professionnel, sans non plus sombrer dans quelque chose qui pourrait être répréhensible par la Ligue nationale de rugby, mais j'essaye de faire passer cette émotion. Vous l'avez complètement dit, Candice, c'est, en fin de compte, je suis un passeur d'émotions. Voilà.
C'est très important, j'imagine. Et du coup, vous parliez des joueurs il y a quelques instants. Est-ce que vous avez des relations assez proches, ou plutôt vous gardez de la distance, enfin, est-ce que vous côtoyez les joueurs ?
Je côtoie beaucoup de joueurs. Je côtoie beaucoup de joueurs parce que c'est ma récompense aussi. Ça donne l'impression qu'on est encore jeune et qu'on est encore dedans. Bien sûr, il y en a avec qui j'ai des relations très particulières, en particulier les plus anciens, les Nivernais, moi quand Seignot, que je connais bien, Seignot Toléafoa, qui joue en deuxième ligne, est revenu, j'étais le premier à être heureux parce qu'on a eu l'occasion de partager quelques repas. Certains connaissent ma maison. Bon, Jason, j'ai une relation un peu particulière avec Jason aussi. C'est une évidence. Maintenant, garder les distances, non, je garde la distance qui est celle que le temps ne me laisse pas, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Je viens de temps en temps avec Régis voir les entraînements, j'aimerais y être plus souvent, mais j'ai d'autres occupations, je suis aussi entraîneur d'athlétisme, j'ai des athlètes nationaux, internationaux, donc je ne peux pas faire plus, mais j'aimerais côtoyer plus souvent ces joueurs, mais bien évidemment. Il n'y a pas de règle. Sauf que lorsque, par exemple, ils sont en préparation, lorsqu'ils sortent des vestiaires, il est hors de... on se tape dans la main très discrètement, mais on va pas s'embrasser. Parce que je sais qu'il faut respecter ce temps de concentration. Moi-même, quand j'étais joueur ou athlète, il paraît que ma famille ne pouvait pas m'adresser la parole. Ah oui, non, parce que rien n'est plus important que la préparation, la concentration, les consignes des entraîneurs, du staff. On doit être à 2000% et on ne peut pas se laisser distraire, même par une marque affective. Donc oui, j'ai une bonne relation avec pas mal de joueurs, mais je sais me mettre à ma place, en réserve, garder une distance, surtout au moment de la compétition ou au moment de la préparation au match.
Donc on pourrait résumer tout cela par le fait que vous avez su trouver votre place au sein de l'équipe à votre manière.
Complètement, et c'est pas facile, parce que j'ai occupé tous les postes. J'ai été joueur, j'ai été ensuite entraîneur-joueur qui était le meilleur niveau du département à l'époque, à savoir la Division 3, qui s'appelle maintenant la Fédérale 3, mais à l'époque, on jouait en National 3, en Division 3. Je me souviens même avoir battu Nevers avec mon club de Saint-Gilles-des-Vignes, mais après, j'ai rejoint les rangs de Nevers. J'ai été dirigeant, puisque j'avais vendu tous les matchs, j'étais un des premiers à avoir commercialisé, vendu les matchs de championnat, et y compris les matchs de Coupe de France, puisqu'à l'époque, il y avait une Coupe de France, avec mon président Roger Lobster. Nous avions fait le parcours de... Nous avons pris notre bâton et on était parti battre le pavé des partenaires. Ça avait bien marché d'ailleurs. C'était une grande première, hein, en 1989. Nous avions vendu tous les matchs à la maison, tous les matchs donc à aller et à la maison, et les matchs de Coupe de France, ce qui nous avait apporté une bonne manne financière et ce qui nous avait fait avancer, c'était le début d'une professionnalisation. Je ne vais pas oser dire que j'ai, avant Régis, essayé de professionnaliser le rugby, mais il y avait déjà cette idée-là. Alors, quand on a occupé tous les postes, joueur, entraîneur, manager, responsable de la promotion et du marketing, eh bien, la difficulté, c'est de garder sa place. Moi, je suis annonceur, je suis présentateur au moment des briefings devant les partenaires. Des fois, j'anime les petits tournois de jeunes. Le plus dur, c'est de bien se garder de réflexion sur des choix tactiques parce que on a cette faiblesse, on l'a tous. Quand on a été joueur, on a envie de refaire le match. On est tous arbitres, on est tous entraîneurs, on est tous capitaines. Dans mon cas, il faut que j'oublie ces parties-là de ma carrière sportive et il faut que je me concentre, que je me consacre à mon activité de speaker, annonceur.
Donc pour revenir au métier de speaker, tout à l'heure vous nous avez parlé de la préparation des joueurs. Donc on le sait, nous, c'est un moment très stressant avant un match. Mais est-ce que vous aussi, vous avez une sorte de préparation, de rituel avant un match? Et est-ce que ce moment-là, il est stressant pour vous? Est-ce que vous avez un peu d'appréhension avant d'introduire les joueurs sur le terrain?
Il n'y a pas une fois où j'ouvre un micro, où je ne prends pas une respiration plus forte, parce qu'il y a un peu, oui, il y a un petit peu de trac. Les gens qui disent qu'ils n'ont jamais le trac, même pour une petite prise de parole, soit c'est qu'ils mentent, soit c'est qu'ils ne sont pas très efficaces. C'est pas moi qui le dis. Si je vous dis Louis Jouvet, vous ne savez pas qui c'est peut-être. Hein.
Non.
Mais Louis Jouvet était directeur de l'École nationale de théâtre. Il était lui-même très grand acteur. Il avait joué Xnock, si ça vous dit quelque chose, dans les classiques. Quand on est en première, on révise certains classiques. Ça doit vous dire quelque chose. Et Louis Jouvet, un jour, disait à un jeune acteur, tu vas monter ce soir pour la première fois sur les planches et tu auras envie de faire pipi et tu auras le trac. Et la première se passe et le jeune acteur revient voir Louis Jouvet, directeur du Théâtre National, et lui dit « Oh, monsieur Jouvet, vous m'avez dit que j'allais avoir le trac. Eh bien, j'ai même pas eu le trac. C'est génial. » Et Louis Jouvet, qui avait une très grosse voix, beaucoup plus grosse que la mienne, lui avait répondu ceci « Écoutez, jeune homme, le trac, ça vient avec le talent. » Au-delà de la bonne plaisanterie de cette remarque de Louis Jouvet, je crois qu'il faut être très honnête, on a toujours le trac, et si on l'avait pas, ça veut dire qu'on est un peu suffisant, et la suffisance, c'est le début de la médiocrité. Maintenant, il y a aussi un travail préalable. Je note toujours mes fiches, même si on peut dire, mais si, tu le connais, c'est le pilier depuis 10 ans, c'est le troisième ligne capitaine depuis je ne sais combien de temps, je note toujours en face le joueur, s'il est capitaine, je note des choses, je mets tous les noms, j'orthographie, je fais des petites liaisons sur les prononciations, parce que vous savez, être speaker aujourd'hui en Pro D2, c'est parfois aussi de bons exercices de diction, hein, entre les noms qui nous viennent des îles.
Oui, bien sûr, c'est important.
Bah oui, bien sûr. Entre les noms géorgiens, j'essaie même de travailler avec les accents locaux que je connais. Un espagnol qui a 2 L, ça se prononce IE. Etc., etc. Donc je travaille au mieux en amont. Et là, il y a une sorte de rituel chez moi. Je prépare mes fiches, je tire mes fiches, je les rectifie, je prends ma douche, je m'habille. Et je m'en vais. Bon, voilà, ça c'est un rituel. Je ne veux pas vous en dire plus sur mes petites marottes que j'ai. Je marche sur les lignes du terrain, j'ai pas de problème. Hein. Je m'appelle pas Neymar. Mais par contre, oui, on a aussi une routine. Ça s'appelle une routine de préparation. Alors, j'ai une routine spéciale pour l'athlétisme. J'ai une routine spéciale quand je travaille avec des entreprises. Et puis, j'ai une routine spécifique quand je suis au rugby.
Donc, en fait, on peut dire que votre passé de sportif de haut niveau vous aide un peu dans ce métier, finalement. Il vous aide à bien vous préparer, à bien animer le match, finalement.
Complètement. Dans l'héritage, on va dire, personnel du haut niveau, il y a une chose très favorable et une chose qui pourrait être défavorable. La chose défavorable, ce serait la suffisance. Dire moi j'ai animé 2 finales de top 14, j'ai fait ça et je suis à l'aise. Et ça peut être un danger. Et puis par contre, il y a l'autre chose du haut niveau, c'est que vous savez que les sportifs de haut niveau sont minutieux, pour ne pas dire parfois maniaques. On parlait de routine, on parlait de préparation, on essaie de rien laisser au hasard.
C'est rigoureux.
De bien préparer nos affaires, de bien plier nos affaires, cet héritage du haut niveau, oui, me sert, et je vous le dis, en faisant attention de bien écarter ce qui pourrait être un danger, c'est-à-dire la suffisance.
Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre amour presque pour le club de Lucerne, mais pendant un match, quand notre équipe est dans le dur, comment est-ce que vous arrivez à remotiver le public, à redonner de l'engouement dans le stade du Pré-Fleury ?
Alors, votre question est complètement d'actualité. Je vais vous dire pourquoi, Enzo, votre question est d'actualité. C'est que j'ai fait poser la question à la Ligue nationale de rugby si nous avions le droit de parler pendant les matchs. Parce qu'il y a une déontologie qui, normalement, alors j'aime pas ce mot normalement, je le mets entre guillemets, devrait faire en sorte qu'à partir du moment où le coup de sifflet du coup d'envoi est donné, on ne doit annoncer que les scores.
Oui, par exemple, pour les essais, les pénalités, tout ça, c'est là que vous pouvez intervenir.
Exactement. Et ça, c'est plutôt mon collègue, d'ailleurs, Patrick Julion, oui. Parce que nous faisons un duo, Patrick Julion, qui le fait. En revanche, aujourd'hui, je vais vous donner les 2 exemples les plus criards. Je vais vous donner un exemple de Pro D2, la SB Terroise, et je vais vous donner un exemple de Top 14, l'UBB. Le speaker de l'UBB crie pendant tout le match. Il se permet. Alors je vous dis, quand on est joueur qui vient visiter l'UBB, on sent vraiment qu'on n'est pas chez soi. Hein. on n'en est pas là. Autre cas, Béziers. Pareil. À qui est-ce Béziers ? C'est le catalan, mais ça veut dire quand même qu'ici on est à Béziers, que les autres ne sont pas trop invités. Il n'y a pas une vraie règle de déontologie qui est écrite dans le rôle du speaker. Je le regrette ou pas, je n'en sais rien, chacun fait comme il veut. Et si je vous dis que votre question est d'actualité, c'est que depuis deux matchs, j'ai décidé, après avoir enregistré des matchs de l'UBB et de Béziers, au cas où on ait des petits soucis, de parler un peu pendant le match. Et c'est vrai que durant les trois derniers matchs qu'on a fait à la maison, et en particulier les deux derniers matchs, je me suis permis de relancer le public. Alors, ce que je dis, c'est pas très objectif, je dis que vous soyez supporter de Carcassonne ou de Nevers, pour reprendre le dernier match, c'est le moment d'encourager votre équipe. Bon, bah, quand vous avez 5600 spectateurs de Nevers pour 4 spectateurs de Carcassonne, on s'imagine quelle est l'équipe qui va faire le plus de bruit, quels sont les supporters qui vont faire le plus de bruit. Oui. Mais, oui, depuis quelques temps, je commence, quand la partie est un petit peu dans le dur, sur la défense en particulier, ou quand, par exemple, on fait une pénale touche, on sent que là, quand on connaît l'importance, Enzo, vous qui jouez troisième ligne, vous savez ce que c'est que l'importance d'un ballon porté lorsqu'on a une touche à 5 mètres de la ligne. Eh bien, oui, effectivement, je me permets d'haranguer avec une certaine discrétion, une certaine politesse, c'est pas la guerre, hein, c'est du sport, mais je réveille les spectateurs, voilà, réveiller les spectateurs.
Toujours dans le respect du sportif.
Exactement, ça c'est important, et on parlait de Régis tout à l'heure, je pense que si d'aventure nous étions, même les spectateurs, les supporters ou autres speakers irrespectueux de l'équipe adverse, très très vite, ils le feraient savoir.
Eh ben oui, parce que finalement le public c'est un peu le 16e homme sur le terrain qui nous pousse jusqu'à la victoire en fait.
Oui, 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 oui. Et je vais reprendre les mots de Xavier Bemeja, notre manager général. Ce 16e homme, il sera bon si les 15 premiers sont bons. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Même le speaker, il n'a pas grand-chose à dire. Vous savez, je vais revenir sur le dernier match où on prend le point de bonus offensif, où un peu à l'image de l'équipe de France à Twickenham, cette équipe de Nevers entreprend plein de choses et ça marche. Il y a beaucoup d'essais marqués et de devant et derrière, ça veut dire que le ballon a beaucoup bougé. Ben, quand il y a un mouvement comme ça sur le terrain, quand il y a un dynamisme comme ça sur le terrain, eh ben, on a vu une hola qui s'est enclenchée, c'est pas le speaker qui l'a enclenchée, ça a été naturel, spontané de la part du public, il y a eu des bangs, il y a eu des chansons, vous mettez le support des bandas, j'ai presque envie de dire que le travail est fait. Donc, oui, le speaker a un rôle pour haranguer les foules, pour éveiller les foules, mais le 16e homme est vraiment présent quand les 15 premiers ont fait le travail.
Ok. Donc vous nous avez parlé de finalement votre assez longue carrière dans l'animation, mais est-ce que dans cette carrière-là, vous avez rencontré des bugs informatiques pendant quelques matchs ?
Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du travail préalable.
Oui.
Je ne vais pas dire qu'au rugby, c'est simple, mais en termes de noms, vous avez déjà, on va dire 23 noms pour une équipe, 46 pour les deux équipes, et plus les arbitres et autres managers que l'on présente. On va dire qu'il y a 50 noms. Par match, 50 noms. Pour une compétition d'athlétisme, sur un championnat, il faut multiplier par 10.
Ah oui.
Ça fait 500 noms. D'accord? Donc, tout ça, on le travaille. On le travaille en amont. Et il nous est même arrivé d'avoir vu des erreurs informatiques qui nous ont fait marquer un tout petit temps d'arrêt dans notre discours, dans notre langage, et on rectifie parce que on dit ce qui est marqué là, c'est faux. On a une confiance en informatique, on travaille avec des supports qui s'appellent des CIS, qui nous donnent en temps et en heure les résultats des athlètes dans différents pôles, mais notre vigilance n'est pas écartée pour autant, d'où l'intérêt, une fois de plus, d'être bien modeste et la veille de se mettre à travailler toutes nos fiches avant de commencer à ouvrir le micro le lendemain.
Donc en fait, vous le gérez avec un peu d'anticipation et du coup d'improvisation en cas de bug.
Il faut une bonne improvisation et préparer. Oui, oui, complètement.
Alors maintenant, nous allons étudier tous vos ressentis, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que d'abord, vous auriez un pronostic pour le match de ce soir ?
Ça dépend de ce que va faire mon ami Jean-Baptiste Aldiger. Est-ce qu'il va encore nous faire une sortie ? Parce qu'ils ont un président assez spécial, Jean-Baptiste. Non, parce qu'en ce moment, il y a que des... Bon, on va vers une équipe qui est dans le doute. Mais vous savez, une équipe qui est dans le doute ou une équipe qui est meurtrie, je vais reprendre encore une expression de notre président, c'est une bête blessée. Et méfiez-vous d'une bête blessée. Elle peut, avant de mourir, vous mettre encore un grand coup qui peut vous être fatal. Aujourd'hui, Biarritz est qualifiable. Biarritz est complètement incertain sur son avenir. Mais quand je dis incertain, c'est même pire que ça. On ne sait même pas s'il y aura une équipe l'année prochaine.
Ah oui,
c'est grave. En plus, avec l'avènement de l'équipe voisine qui s'est installée dans le haut de tableau de top 14, je vais parler de Bayonne.
Mais est-ce que vous savez pourquoi?
Comment?
Pourquoi est-ce que Biarritz a un avenir aussi incertain que ce que vous dites?
Alors, ça tient aux hommes plus qu'aux structures. Ça tient aux relations. Déjà, c'est quand même compliqué d'avoir deux équipes de très haut niveau. C'est des budgets monstrueux dans le même périmètre. Il y avait une exception à une époque, parce que quand c'était du rugby de village, lorsqu'on pouvait faire deux équipes de première division avec un million d'euros de budget annuel, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est à minima 20 millions d'euros de budget pour une équipe qui veut se maintenir en top 14. Et je dis à minima, on est à minima. Et puis la moitié, et là encore à minima pour une équipe du cran du dessous de Pro D2. Aujourd'hui, concernant les soucis qu'on a au niveau économique en France, et la région du Pays Basque n'y échappe pas, c'est très difficile d'avoir deux équipes de ce type, gourmandes en budget, gourmandes en joueurs, évoluer au plus haut niveau. Et la deuxième chose, c'est aussi une histoire de partenaires. On a la chance, nous, d'avoir un président qui est un rassembleur, un fédérateur, un catalyseur. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, avec ses sorties un peu particulières, qui me font rire, parce que c'est un personnage qui est jeune déjà, c'est le plus jeune président des 30 clubs pro, mais qui l'annonce qu'il sera à Marseille un jour, qu'il sera à Agen un autre jour, c'est très très compliqué d'avoir un avenir pour un club qui veut, qui vise la durée, bien évidemment. Un club, c'est pas pour une année, c'est pour une durée illimitée. Donc, nous allons chez des joueurs qui ont un avenir incertain. Certains ne savent même pas si, alors qu'ils sont encore en contrat pendant deux ans, si l'année prochaine ça va jouer à Biarritz. Maintenant, je sais que ces joueurs se sont rassemblés sur eux-mêmes et donc ça peut faire leur force. Donc, je crois qu'on va véritablement jouer ce soir à l'extérieur avec une équipe qui est un peu meurtrie en face, qui a des choses à prouver, qui a des failles. On le sait, elles ont été analysées techniquement par notre staff. C'est pas un pronostic que je vais vous faire, c'est un vœu. Si on venait avec un voire deux points, surtout au regard de notre plan de marche pour la fin de saison, ce serait très très bien. Donc le match nul ou une défaite à moins de 5 points, à 5 points au moins, ce serait très bien.
Ok, le message est passé du coup pour notre équipe de ce soir.
On a le même vœu, bien évidemment. Et est-ce que vous pourriez nous dire, si vous en rappelez bien sûr, mais je pense que ça ne s'oublie pas, votre plus beau souvenir en tant que speaker?
Oh là 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 là, le plus difficile. Beau souvenir à travers tous mes plus beaux souvenirs, donc. Parce que j'ai eu cette chance, c'est quand même de voyager dans des endroits magnifiques, de faire des rencontres avec des gens de manière assez extraordinaire, que ce soit les locaux dans les pays où je suis passé, ou que ce soit avec les sportifs que j'ai rencontrés. Mon plus beau souvenir, je crois, c'est un lien entre le plus haut niveau, les Jeux Olympiques, et la région dans laquelle j'ai tout le temps vécu et dont je suis absolument fier, à savoir la Nièvre. C'est la médaille de Jean Galfione en 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Quand il reste plus que trois concurrents, on sait que quoi qu'il arrive, Jean Galfione repartira avec une médaille autour du cou. On ne connaît pas la couleur du métal et tout se joue à un essai d'un Russe qui s'appelle Trandenkov. S'il passe, il prend le titre et bat le record olympique. S'il ne passe pas, c'est Jean Galfione qui est champion olympique et qui est une voix royale, il ne peut plus être rejoint. Et je l'annonce au micro de manière objective et Jean Trandenkov échoue. Jean bat derrière le record olympique, s'empare de l'or. Et l'année d'après, Jean est présent au top perche de Cercy-la-Tour. Voilà, en campagne. Il passe du stade olympique d'Atlanta à la salle du gymnase municipal de Cercy-la-Tour. Et là, au micro, il dit, quand Raph, parce puisque c'est comme ça qu'il m'appelle. Quand j'entends la voix de Raph dans le stade olympique, j'ai presque l'impression d'être à Cercy à Tours. Et ça m'a rassuré. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est la plus belle récompense. Donc mon souvenir, c'est un souvenir durable. Ça a été la joie de partager cette médaille olympique avec Jean Galfione sur le stade en tant que speaker, la joie de la partager après au Club France, et puis la joie d'en reparler, de le repartager quelques 6 mois après, chez nous, en Nivernais, dans un endroit complètement atypique. Oui, c'est sans nul doute l'un de mes meilleurs souvenirs parce qu'il était durable.
Bon, bien, c'est vrai que en quelques minutes, vous avez su nous refaire vivre l'événement et ça devait être pour le peu palpitant.
Ah, je vous ai emmené au stade olympique, là, vous étiez au stade olympique.
Ah, mais tout à fait. Et donc, est-ce que, enfin, vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez animé en remplacement un match du Loup, en top 14 donc, et est-ce que ça vous a plu et dans le futur plus ou moins proche, vous aimeriez reproduire ces animations de match en top 14?
La question est très bonne. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Je suis pas persuadé que... Enfin, il y avait une bonne ambiance quand même au Loup, hein, c'est l'époque où ils sont montés, donc ils gagnaient tous les matchs. Oui, j'aimerais bien pouvoir commenter un match en top 14, mais je n'ai plus vraiment envie de me déplacer. Donc la seule solution pour que je commente en top 14, c'est que Nevers monte en top 14.
Mais ça arrivera, il faut y croire.
Merci monsieur Jean-François Raffali d'avoir répondu à nos questions.
Avec grand plaisir monsieur Enzo, puisque le monsieur restera jusqu'au bout.
Excusez-moi.
Pour une prochaine interview quand on se connaîtra mieux, voilà.
Donc Jean-François Raffali, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le futur?
Alors là, on est dans une période où je viens de terminer, puisque vous l'avez peut-être vu, mais j'étais au micro lors du record du monde, Mondo Duplantis, puisqu'il était sur une des étapes de mon circuit Perché des Tours à Clermont-Ferrand. Là, ce circuit vient de s'éteindre de manière magnifique à Rouen, le week-end passé. Donc là, on est un petit peu dans une période plus calme. La prochaine fois qu'on aura l'occasion, enfin, où malheureusement vous subirez l'écoute de mes discours, ce sera pour le match qu'on reçoit à la maison contre nos amis de Massy. Et puis autrement, les prochains, ben, j'ai une assemblée générale lundi prochain à Lyon, au Matmut Stadium. Nous allons parler Coupe du Monde parce qu'on est un certain nombre de speakers à avoir postulé pour la Coupe du Monde de rugby qui se déroule en France, bien évidemment. Mais entre-temps, j'aurai fait tous les meetings du Pro Athlé Tour, à savoir Sotteville-lès-Rouen, Nancy, Marseille, ça c'est au début de mois de juillet. Et puis j'ai quelques animations locales, aussi originales soient-elles, en particulier le 1er juillet 2023, j'animerai une course de tracteurs-tondeuses, et oui, de tracteurs-tondeuses, c'est beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit, avec mes amis de Guérigny. Je serai donc à Guérigny, avec localement des amis qui ont d'ailleurs une connexion avec l'entreprise Textile au Plus, et j'animerai une course de tracteurs-tondeuses, c'est spectaculaire, je vous y invite, c'est le 1er juillet, on sera loin des stades de rugby, et puis autrement, ben, il y a cette Coupe du Monde, et puis on est sur les rangs pour avoir un œil sur les Jeux Olympiques 2024. Mais ça, c'est une autre affaire.
Bon, on a hâte de découvrir ce championnat de tracteurs-tondeuses. Mais
ah
juste...
oui, c'est étonnant, étonnant.
On n'en doute pas. Mais est-ce que, pour revenir juste quelques secondes sur le top 14, est-ce que vous, à titre personnel, vous pensez que Lusson peut et a les capacités de monter en top 14 un jour?
C'est d'une évidence que oui. D'abord, si on n'a pas de grands rêves, on n'a pas de grands dessins, faut pas...
C'est vrai.
Voilà. En revanche, lorsque Régis Dumange et l'ensemble de ses dirigeants ont osé penser fort et haut, c'était il y a plus de 10 ans, que le temps passe vite, mon Dieu, et les marches étaient moins abruptes que maintenant. C'est-à-dire que de passer en deuxième division en Fédéral 1, ça a été relativement aisé. Fédéral 1 en top 14, il nous a fallu faire l'apprentissage sur 3 ans, mais on l'a fait. Mais entre-temps, la marche entre la Pro D2, et on le voit, hein, les équipes qui, à part Bayonne, étaient renforcées de joueurs internationaux, Maxime Machenot, Lopez, tout ça, c'était quand même des gars qui étaient internationaux 2 ans auparavant en équipe de France. Donc, soit on a des budgets énormes et on est sûr de monter et de s'y maintenir, et encore, regardez Montpellier, qui était sur une France l'an passé, ou on pense à construire et on devient un club formateur et on peut, par le truchement, je ne vais pas vous parler de tous les principes financiers, mais quand on forme, on a des retours sur investissement qui peuvent nous permettre d'espérer progressivement monter en top 14. Ça veut donc dire qu'il faudra du temps, il faut être patient. Je pense qu'on aura l'occasion d'ici là de jouer les premiers rôles à nouveau en Pro D2, d'avoir de belles émotions, comme vous le disiez tout à l'heure, en particulier dans des phases finales. C'est tout le mal qu'on se souhaite dès cette année d'ailleurs. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui dit aujourd'hui que dans le contexte actuel, on peut monter d'un coup de baguette magique de Pro D2 en top 14, non, c'est quelqu'un qui a été responsable. On est entouré de gens et dirigé par des gens responsables. Il faut sans doute renforcer encore les équipes dont vous faites partie, Enzo et Candice. Il faut renforcer la passerelle entre notre formation qui est bonne, puisqu'on voit nos joueurs qui sont partis dans des clubs qui font les beaux jours d'autres clubs ailleurs. Et il faut renforcer cette passerelle avec l'équipe première. Puis je ne veux pas vous faire un scoop, mais on risque d'avoir dans les années, dans les saisons à venir, pas mal de jeunes talents qui vont exploser à Nevers et former à Nevers.
Et oui, on l'espère.
Évidemment, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter.
Un séjour, on annoncera peut-être en première division élite, Candice, issu de Nevers, et on annoncera peut-être Enzo, le troisième ligne gratteur rapide qui évolue en équipe 1 à Nevers. Voilà.
Il faut rêver grand.
Et absolument.
Et ben merci beaucoup, Jean-François.
Merci.
Raffali.
Je vous en prie, ce fut un plaisir, Candice et Enzo. Et de mon côté, je vous souhaite une très belle continuation au sein de l'Essonne Rugby.
Merci.
On se retrouve pour l'actu rugby après avoir écouté Star Walking de Lil Nas X.
And get high up, I know that I'ma die. Reaching for a life that I don't really need at all. Never listen to replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over. Been a nigga since I came out my mama. Thinking God Daddy never wore a condom. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? If these niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. It's over if I'm breathing. Raise it to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm still walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Raise it to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm still breathing, racing to the moonlight, and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking.
Nous sommes de retour sur Radio Vali et nous allons continuer avec les actus USON. À l'heure où nous enregistrons, donc ce vendredi 17 mars, nous pouvons vous annoncer les résultats du week-end passé et les matchs à venir.
Donc on a pu assister au match espoir contre la section paloise avec une victoire 15-13, victoire qui leur permet de garder leur première place. Ensuite, nouvelle victoire des Crabos contre l'ABC des 15, 19-17, eux aussi gardent leur première place. Et enfin, donc nous, les Alamerceries, avons fait un match nul contre l'ABC des 15 sur un score assez atypique de 0-0, mais qui nous permet quand même de garder notre première place. Les féminines seniors ont joué contre Ampuy et elles ont gagné 24-23. Et bien sûr, l'équipe de France qui gagne 53-10 en Angleterre, donc victoire écrasante et surtout historique, car c'est la plus grosse défaite encaissée par l'Angleterre chez eux sur leur terrain.
En ce qui concerne les matchs de ce week-end, nous avons l'équipe de l'USON qui évolue donc en Pro D2, qui va affronter Biarritz à Biarritz. USON qui se classe actuellement à la 7e place et on espère bien sûr qu'elle va pouvoir remonter. Nous les cadettes, nous partons jouer à Rouen samedi. Et l'équipe de France, samedi toujours, va affronter le Pays de Galles pour ce dernier match du tournoi des 6 nations. En ce qui concerne les seniors féminines, elles devaient affronter Andrézieux, mais cette équipe est déclarée forfait, donc le match est annulé.
Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.
Et n'oubliez pas, Radio Vali est à retrouver en podcast sur Bac FM.
Ce n'est pas terminé pour le Verbe. Aubameyang peut-être pour crucifier le Biarro. Le voici l'essai. Oh, qui vaut cher cet essai. Victoire de Nevers qui réussit le gros coup de cette 24e journée.